Alors les images sont là pour frapper les esprits et les consciences. Depuis la nuit des temps, les humains se sont racontés des histoires. Des histoires avec des images qui touchent et qui font réfléchir. Quand on raconte l'histoire du petit chaperon rouge aux enfants, peut-être que Gaspard t'a déjà entendu l'histoire du petit chaperon rouge, eh bien c'est pour les rendre attentifs aux mauvaises rencontres qu'ils peuvent faire. Le récit a un objectif, un but à atteindre pour accéder à une certaine compréhension du monde. Jésus parle en parabole. Il raconte des petits récits avec des images qui sont faites pour frapper les esprits. Et il parle selon des catégories connues de son époque. Chaque parabole contient un objectif précis dans sa compréhension. Elle nécessite une interprétation, car le sens y est souvent plus subtil qu'on ne croit. Et c'est ce que je pense aussi pour le récit d'aujourd'hui, qui est très riche. Alors abordons d'abord ce qui a posé problème dans l'histoire des chrétiens, à savoir l'image du jugement, avec les deux éléments, paradis et enfer. Et on remarque qu'il n'y a pas du tout ces deux mots dans le texte. Il faut se souvenir que Jésus vit dans son époque et que la littérature qui l'a précédée abordait ces questions du jugement et de la condamnation avec ces lieux du feu. On a un livre qui n'est pas dans nos Bibles, mais qui est reconnu par l'Église orthodoxe éthiopienne, le livre d'Enoch, qui est écrit à peu près 200 ans avant la venue de Jésus, et qui développe justement des récits de fin du monde. Je vous cite un verset. « En ces jours, on les emmènera dans l'abîme de feu, dans les tourments, et ils seront pour toujours enfermés dans la prison. » Et du coup, eh bien, il faut prendre ces images comme une pédagogie que Jésus a eue pour faire comprendre certaines choses. Mais évidemment, cet imaginaire a habité toute notre histoire chrétienne. La période du XVe siècle en Europe a été faite de nombreux malheurs, comme les famines, la guerre de Cent Ans, les maladies comme la peste. Et évidemment, beaucoup de personnes sont mortes. Une grande partie de la population a été décimée à ce moment-là. Et dans les temps de grands malheurs, eh bien, la réaction est d'en appeler au jugement de Dieu. C'est à cette époque que l'Église catholique a développé la théologie du mérite, des indulgences pour éviter justement d'aller en enfer, à la limite au purgatoire. Et évidemment, les sculptures de nos églises sur les tympans reflètent ce jugement dernier à cette époque-là. Alors, le problème, c'est qu'on a pris l'image pour la réalité. Et on en a fait mauvais usage. À l'inverse de la bonne nouvelle, on s'en est servi pour culpabiliser et pour faire peur. Et malgré la réforme qui a rappelé que la grâce de Dieu est au cœur du message du Christ, eh bien on se méfie encore d'un récit comme celui-là qui condamne à l'enfer avec du feu. Mais Jésus part de la connaissance des auditeurs pour les emmener ailleurs, pour leur ouvrir un autre angle de l'approche et pour leur donner des clés pour vivre. Et pour vivre ici et maintenant. Alors sur quoi Jésus veut-il nous alerter? Dans cette histoire, il y a plusieurs enfermements sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Le premier enfermement, c'est le pauvre. Il est enfermé dans sa pauvreté, il n'a aucun statut, il est invisible aux yeux des autres, et du riche en particulier. Il n'a pas à manger, et comme le fils prodigue, il aurait bien aimé se nourrir des miettes qui tombent de la table du riche. La mauvaise nourriture entraîne la mauvaise santé, un phénomène de la pauvreté qu'on connaît malheureusement encore bien aujourd'hui. Cet homme a des plaies, et les chiens viennent lécher ses plaies. Quand j'ai réfléchi à la pauvreté, je me suis dit que de nos jours encore, elle est souvent invisible. Alors bien sûr, on a des mendiants dans les rues, on a des mendiants dans le métro, même si, je ne sais pas où c'en est, je n'ai pas regardé si la ville de Nice a toujours interdit ces mendiants, des villes qui interdisent les mendiants. Mais il y a des personnes qui vivent dans la pauvreté invisible et, par exemple, des personnes qui vont dormir dans leur voiture. Ils peuvent avoir un petit travail, mais ils dorment dans leur voiture. Ils n'ont pas de logement. La pauvreté est le premier enfermement. Elle entraîne du coup une image de soi qui est très négative et qui enferme encore plus. Pourtant, l'homme de notre histoire a quand même une existence. Il porte un nom. Il s'appelle Lazare. Lazare signifie « Dieu vient en aide ». Et par son nom, eh bien, cet homme porte une espérance. Le riche, lui, n'a pas de nom. Il est défini par ses choix de vie, sa richesse se voit sur ses vêtements et il fait chaque jour de nombreux festins. Alors, j'y vois aussi une forme d'enfermement, notamment dans l'image qu'il a de lui-même et l'image qu'il veut montrer aux autres. Et nous connaissons cela aujourd'hui. On peut appeler ça la pression sociale. Il faut toujours être au niveau. Et parfois, la richesse entraîne dans un engrenage qui appelle à encore plus de richesse. De plus, pour cet homme, toute sa vie se résume à l'oisiveté et au plaisir. Et le riche est enfermé dans un aveuglement qui l'empêche de voir le pauvre à sa porte. Il ne faut peut-être pas qu'on le voie, en effet, si jamais il aide le pauvre, qu'il le fait entrer, ça pourrait ternir son image. Voilà pour la première partie du récit. Dans la deuxième partie du récit, on aborde ce qui se passe après la mort, en fait les demeures. Ça, c'est ce qui arrive à chacun et, voilà, dès qu'on est vivant. Et là, les rôles s'inversent. Pour Lazare, en fait, son paradis, c'est une présence d'amour. Il est dans le sein de Lazare, sur le cœur de Lazare. Par contre, le riche, pourtant, ce n'est pas le réchauffement climatique, mais il a chaud. Et pour la première fois, l'existence de Lazare est importante pour lui. Il le voit auprès d'Abraham, peut-être peut-il le soulager. Mais ce lieu de l'après-mort est un lieu de responsabilité personnelle et individuelle. Chacun répond pour lui-même. Et le riche se rend compte de la conséquence de sa vie renfermée sur lui. Alors peut-être pour la première fois de sa vie, il pense aux autres, il pense à ses frères, et un dialogue s'instaure durant les cinq versets suivants. Et j'y entends une question, quel guide peut-on avoir pour la vie, pour sa vie, pour sa propre vie? Pour le riche, Moïse et les prophètes ne suffisent pas. La loi donnée ne suffit pas. Peut-être en fait que les frères n'ont aucune envie de suivre cette loi. Alors on arrive dans un registre qui pour moi éclaire cette parabole. Si quelqu'un vient à eux de chez les morts, « ils se convertiront », dit le riche. Cela me rappelle une jeune du catéchisme qui avait dit après une de nos rencontres « mais alors, il faudrait que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire pour que je puisse croire en lui. » On a besoin de sensationnel. Comment croire en un Dieu qui dépasse toute catégorie humaine? Un Dieu qui est inatteignable par notre intelligence, sinon peut-être par un phénomène extraordinaire. Et bien même cela, même ce phénomène extraordinaire ne suffit pas. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Cette affirmation clôt la discussion et le récit. Alors je me suis dit que cette affirmation témoigne quand même du découragement de celui qui a rédigé ce texte. Parce que oui, quelqu'un est revenu d'entre les morts pour nous révéler un Dieu de vie, un Dieu d'amour et de pardon. Oui, Jésus est bien ressuscité des morts. Il a été relevé par Dieu pour la vie éternelle. La résurrection de Jésus est en fait le point culminant de ce que Dieu peut faire pour l'humanité entière. Briser les verrous de la mort, pour que nous n'en ayons plus peur. Ce n'est plus seulement une loi qui est le guide de la vie, mais la présence d'un homme vivant, et par cette vie nouvelle, eh bien, notre propre vie peut prendre une autre saveur. Mais cette réponse montre la résistance qui a existé de tout temps de croire à la résurrection de Jésus. Même si Dieu vient briser les enfermements, certains ne voudront pas de cette libération, parce que accepter d'être libre, c'est accepter d'être responsable de cette liberté et d'en répondre. Ça n'est pas confortable. Alors, dans ce récit, on parle d'un fossé infranchissable qui sépare les deux hommes dans le séjour des morts, mais je me suis dit, finalement, ce fossé n'est-il pas avant tout dans notre propre vie ? Nous vivons parallèlement les uns aux autres, mais combien de fois est-ce que nos mondes ne se croisent pas ? N'y a-t-il pas aussi des enfers sur la terre ? Parfois, nous le subissons, nous en vivons des moments très très difficiles. Parfois l'autre vit cela, mais nous ne le savons pas. Le philosophe chrétien qui s'appelle Denis Moreau a écrit un livre qui s'appelle « Résurrection » au pluriel. Et il écrit « La puissance de la résurrection vient nous rejoindre dans nos enfers existentiels. Mais on doit accepter qu'elle agisse dans la durée. » Et il parle de l'éclosion dans nos vies de situation résurrectionnelle. Et cela peut concerner tout ce que nous rencontrons comme épreuve dans nos vies. Ça peut être la maladie, la dépression, toutes les souffrances. Cette puissance ressuscitante peut agir dans le quotidien de nos vies. C'est parfois pas quelque chose de sensationnel, mais c'est quelque chose qui nous fait dire « Tiens, il y a un signe là qui est curieux ». Il y a peut-être une coïncidence, ou alors peut-être à ce moment-là, je ressens une paix particulière, une joie que je n'attendais pas. Oui, recevoir cette puissance, c'est aussi la faire vivre dans nos relations, des uns avec les autres. C'est savoir qu'on peut l'invoquer dans des rencontres qui ne se font pas à cause du fossé infranchissable que l'on imagine, que l'on met peut-être nous-mêmes entre les autres et nous. Et puis parfois, nos réactions spontanées nous empêchent d'être à l'écoute de l'autre. Parce que ça commence par ça, ça commence par une écoute. Comment le pauvre peut-il briser son enfermement ? Eh bien, peut-être qu'il peut déjà prier pour que Dieu ouvre le cœur du riche, qu'il change son cœur. Et le riche, eh bien, peut laisser peut-être quelque chose passer dans sa vie, peut laisser son regard s'ouvrir sur celui qui est dans le besoin, peut apaiser ses peurs. Peut-être qu'il ne veut pas l'aborder parce qu'il a tellement peur d'être comme lui. Oui, la question pour nous est peut-être de laisser tomber nos peurs. Alors il y a des peurs profondes dont nous n'avons pas conscience, mais il y a aussi des peurs liées à cette pression sociale auxquelles nous pouvons réfléchir. Et nous pouvons avoir confiance que oui, nous pouvons agir. Aucune situation n'est jamais bloquée en présence de Jésus-Christ. Et toutes les situations qui nous paraissent bloquées sont à lui remettre. Il sera en même temps le guide et l'ouverture de notre regard. Alors oui, recevons sa présence dans nos vies. Amen.